Il y a de l'amour, il y a l'amour du Père, énormément d'amour pour notre Église, pour nous tous ici. Il y a un amour phénoménal. Merci Alana d'avoir exprimé ça. Et il y a de la joie, parce que comme tu as dit, c'est un l'amour du Père, c'est ça déborde de tous les côtés, c'est un volcan, c'est de la joie, c'est quelque chose d'énorme, énorme, énorme. Et fondamentalement aussi, comme l'a exprimé Fabrice, Dieu veut consoler. Il veut consoler son Église. Et au plus profond de nous, et cette joie, elle vient aussi consoler. Et il y a peut-être des strates et des strates et des couches de tristesse, de déception, comme on a dit, de plein de choses de nous, des autres, de notre entourage. Il y a aussi toute cette douleur de tout ce qu'a vécu l'Église depuis sa création en 92, hein, tout ce qu'elle a vécu. Et le Seigneur veut laver et inonder dans sa joie pour la nouvelle étape. Donc laissons-nous vraiment remplir de cette joie, de cette consolation, parce qu'il dit oubliez les choses passées, oubliez. Il y a vraiment une nouvelle étape. Là, je pense qu'on peut peut-être commencer à aborder le message là. Mais vraiment, recevons cette consolation profonde de l'âme individuelle, de l'âme collective. Beaucoup parmi nous, on a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves. Hein. Vous le savez, enfin nous le savons tous, énormément d'épreuves. On est une église éprouvée, 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 et encore éprouvée, et encore éprouvée. Et en même temps, il y a cette infinie tendresse de Dieu qui veut consoler, restaurer, guérir et équiper pour la prochaine étape. Voilà. Alors, ce message, c'est pas seulement pour ceux qui sont là physiquement, mais c'est aussi pour ceux qui sont pas là parce qu'ils sont à droite à gauche, et peut-être aussi pour ceux qui vont venir après, ou qui vont revenir, ou qui vont s'ajouter. Hein. Et donc le Seigneur nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, en tant que corps, hein, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est pas chacun de nous qui a choisi qu'on soit là, dans ce corps précis. Et ça, c'est valable pour maintenant et pour ceux qui vont se rajouter. Hein. C'est moi qui vous ai choisi. Pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Et tout est par lui, pour lui, en lui, de lui sont toutes choses. C'est lui qui nous a mis ensemble, qui nourrit, qui prend soin de son corps, qui conduit son église. Et quand on prie pour Josué, on le fait souvent hein, avec le groupe d'intercession, récemment, on était saisis par l'infinie tendresse de Jésus pour son église Josué. Hein. Il y a une tendresse extraordinaire. Et quand on rentre simplement dans la présence de Dieu, il y a cette tendresse qui est là, extraordinaire, et qui nous saisit, qui nous bouleverse. Dieu aime profondément son épouse. Il aime son église. Il aime son église locale. Chacune de son église, chaque église locale. C'est vraiment ça. Et puis, chaque église est l'émanation d'un projet, d'une idée. Chaque création de Dieu correspond à un projet et à une idée géniale, parce que Dieu n'a que des idées géniales. Donc, chacun de nous, on est créé individuellement en incarnation d'une idée absolument géniale du Père. Vous êtes d'accord avec ça? C'est bon? Tout le monde est OK avec ça? Psaume 139, hein, au cas où. Hein, il y a un chemin pour chacun de nous individuellement de révélation de combien on est extraordinaire. Chacun de nous. J'espère que vous êtes dans ce chemin de révélation. Moi, ça fait pas mal de temps que j'y suis, mais oh là là, Seigneur, t'as une super idée en me créant quand même. Hein. Parce qu'on découvre, c'est progressif, vous voyez. Il nous amène par étapes de révélation en révélation. Il dit, waouh, Seigneur, waouh. Ah ouais, t'as un grand projet, hein. Les projets de Dieu sont toujours grands, grands, grands. Et pour son église, quand il crée une église, eh ben, c'est la même chose. Il a un projet extraordinaire pour son église. Et c'est pas une idée farfelue de quelqu'un en 92 qui a fait qu'on a créé l'église, hein. C'est venu vraiment du cœur du Père. Hein, Luc, tu confirmes. C'est venu des entrailles de compassion du Père. Donc, on est là parce que on correspond à une incarnation en cours, hein, en processus d'une idée géniale de Dieu. Et puis après, pareil, c'est pas nous qui avons choisi ce nom, hein, du tout, du tout. C'est Dieu qui nous a donné ce nom. Et un nom, c'est énorme. C'est une identité Et c'est aussi une destinée spirituelle. Sachant que tout parle de Jésus, hein, tout parle de lui. Donc on a ce nom, Josué. On a ce nom, Josué. Pourquoi on s'appelle Josué ? Alors on est tellement habitués d'ailleurs, nous, ça devient une routine, quoi. Hein, on va Josué, tatiti, tata, Josué fait ci, Josué fait ça, là j'ai Josué, tatiti. On est là-dedans, quoi. Et en fait, c'est pas rien. C'est pas rien de s'appeler Josué. Donc, je propose que dans ce partage, on redécouvre, et puis qu'on ait d'autres facettes aussi, hein, de ce que c'est que ce nom, dans toutes ses facettes, parce que c'est très 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 riche, un nom, c'est multi-multifacette, et que on s'approprie, parce que je crois vraiment qu'on est dans un temps d'activation. On sait bien qu'on est dans une autre étape pour notre Église. On est en plein Pessard, il y a cette histoire de la mérite, tout ce qu'on vient de vivre. On pressent qu'on est dans une autre étape. Et Seigneur nous réactive en disant, pourquoi je vous ai appelé comme ça? Reprenez tout ce qui va avec ce nom. Alors, je peux vous dire, ça nous dépasse complètement. Le projet de Dieu, par nature, comme Dieu est immense, et ça, c'est valable aussi pour chacun de nous, les projets de Dieu nous dépassent complètement et dépassent nos pensées humaines et nos conceptions. Et notre part, c'est vraiment d'être fidèle à l'appel de Dieu sur notre vie personnelle et communautaire. Et donc, on va regarder plus avant ce que c'est que ce fameux nom. Alors, on est dans Pessard, hein, on est dans le sixième jour de Pessard, exactement. Donc, Josué, tout le monde connaît sa Bible. Josué, ça veut dire Yehoshua. En hébreu, c'est Yehoshua, les Bibles juives. Et c'est, rien que la signification de ce nom, l'Éternel est salut, ou l'Éternel sauve. Et Shua, c'est un mot hébreu qui veut dire, je vous dis toute la liste, Shua. Donc on se dit, c'est nous ça, c'est notre identité, c'est Jésus en nous. Secours, délivrance, salut, victoire, triomphe, aide, assistance, sauvetage, tout ça. Yehoshua, et puis Yeho, c'est Dieu. Dieu sauve, Dieu fait tout ça. Délivre, sauve, est victorieux, triomphe, assiste, sauve, enfin tout. Donc déjà ça, c'est notre appel. C'est Jésus comme ça qui veut se manifester en nous, à travers nous. Et puis, alors on va regarder maintenant dans la Bible. Il y a quand même deux grands personnages qui ont porté ce nom dans la Bible. Alors bon. Connaissez, non, les deux. Il y en a un très 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 connu, celui du Pentateuque là. Enfin non, pas du Pentateuque, celui qui vient après là, le successeur de Moïse, Josué. Alors Josué, moi je croyais tout savoir de Josué, enfin le grand libérateur. Hein. Est-ce que vous savez de quelle tribu est Josué? Alors c'est le successeur de Moïse. Donc si vous répondez même tribu que Moïse, c'est raté. C'est pas ça du tout. Donc les pasteurs sont priés de pas dire les choses. Hein. De quelle tribu est Josué? Non, il n'est pas de la tribu de Moïse. Non plus. Voilà, il est Éphraïm. Donc Josué, c'est Éphraïm, fils de Noun, tribu d'Éphraïm. Ah, Éphraïm, c'est qui ce gars? Éphraïm, c'est... Bon, les pasteurs, pareil, vous dites rien. Éphraïm, c'est... Ah, c'est un fils de Joseph. L'aîné, le cadet, le qui? Le cadet. Mais il est passé aîné grâce à Jacob, qui l'a pleinement adopté. Sa maman, elle était juive? Ah ben non, égyptienne. Ah, raté, égyptienne. Donc Éphraïm, descendant de Joseph. Alors, moi, dans ma tête... Je croyais savoir que l'onction de gouvernement, c'était tribu de Juda. Jésus, c'est la tribu de Juda, tribu de Juda. Et puis, on a eu un frère messianique qui nous a dit, non, Éphraïm, c'est aussi une onction de gouvernement. Ah, alors j'ai vérifié quand même, parce qu'il faut toujours vérifier dans la Bible. Hein. Et puis, effectivement, quand on regarde les bénédictions de Joseph, et dans Genèse, et dans Deutéronome, qu'est-ce qu'on voit? Joseph, donc le père d'Éphraïm, berger d'Israël, le prince de ses frères, ça veut dire quelque chose, le prince de ses frères, et Deutéronome, c'est l'élu parmi ses frères. Donc Joseph a un stade énorme dans les 12 frères là. Et puis Joseph, donc Éphraïm derrière, hein, Éphraïm, donc l'aîné de Joseph, on va dire par adoption de Jacob, c'est quand même quelque chose de très particulier. Éphraïm, Joseph, Joseph a sauvé Israël et il a pourvu pour Israël et pour les nations, puisqu'il a et Éphraïm, c'est à la fois les nations, maman égyptienne et père juif, quoi. Donc il a pourvu pour Israël et pour les nations. Et Éphraïm, ça veut dire fécond. Donc ça parle de multiplication. Éphraïm, c'est la fécondité. Donc tout ça, c'est contenu dans Josué, fils de Noun, tribu d'Éphraïm. Donc une onction de gouvernement, de leadership, on le voit très bien avec Josué dans le premier livre. Après, vous avez, on va revenir sur le premier Josué, bien sûr, mais le deuxième, c'est Josué, un autre Josué. Est-ce que vous connaissez le deuxième Josué et de quelle tribu il est ? Alors, il est un peu moins connu, celui-là, mais quand même... Voilà, c'est un souverain sacrificateur, donc forcément, de quelle tribu ? Lévi, obligatoirement, et même descendant d'Aaron. Hein. C'est un souverain sacrificateur, fils de Yehoatsadek, et c'est pas du tout la même période historique. Il apparaît dans le livre de Zacharie, prophète Zacharie et Agé. Et là, on est en pleine... on est après la déportation à Babylone, donc on est dans une toute autre période. Alors d'un côté on a un Josué souverain sacrificateur, de l'autre côté on a un Josué gouvernement, leadership, c'est pas des onctions semblables quand même, hein. Et pourtant, ce sont deux onctions qui sont absolument complémentaires, ce n'est pas l'une ou l'autre. C'est l'une et l'autre. Et pour nous, Josué, on s'approprie les deux. Alors pourquoi ? Il y a des grosses raisons. Parce que si vous remarquez, quand est-ce que Jésus se présente pour la première fois dans Genèse, il se présente hein, de manière cachée sous la forme de la première fois dans la Bible où il apparaît, Jésus comme préfiguration, mais il est là, il apparaît, il se rencontre Abraham en plein marasme, en plein tumulte, en pleine guerre d'ailleurs, c'est Melchisédek. Et Melchisédek, c'est un roi de Salem, en plus roi de Jérusalem, et sacrificateur. Donc Jésus, la première fois qu'il se révèle, c'est roi et sacrificateur. Et en lui, nous sommes transformés à son image, et il fait de nous, exactement ce que dit 1 Pierre 2, versets 9 et 10, il fait de nous des rois et des sacrificateurs, un sacerdoce royal, roi et sacrificateur, ça va toujours ensemble. En Jésus, bon, dans l'Ancien Testament, c'est vrai que c'était différentes personnes, mais dans la Nouvelle Alliance, en Jésus, nous sommes rois et sacrificateur. Donc, l'onction de Josué, tribu d'Éphraïm, et l'onction de Josué, souverain sacrificateur, c'est pour nous, les deux. Les deux. Et alors, nous, Josué, on fait partie de l'église d'Alsace, et au-delà, on fait partie de l'église de France. Hein. Et là, c'est très... Par rapport à cette double onction, vous savez, sacrificateur et roi, il y a quelque chose de très particulier qui m'a vraiment interpellée, c'est... J'ai revu ce qui est un appel propre à la France, et je vais vous reparler, peut-être que je vous en ai déjà parlé, la basilique qui surmonte Paris, et dans laquelle il y a une maison de prière 24-24, c'est la basilique du Sacré-Cœur. Et elle n'est pas du tout consacrée à Marie, ni rien, hein, c'est vraiment la basilique du Sacré-Cœur de Jésus. Elle a été construite après un temps d'humiliation épouvantable de la France, c'était après 70, elle avait perdu l'Alsace-Lorraine, et elle s'est repentie, et il y a une souscription nationale, et plein de petites gens, des gens pauvres, modestes, ont donné, qu'on fasse cette belle basilique. Et tout au fond, vous avez une magnifique mosaïque, vous avez Jésus, vraiment Jésus, qui est vraiment en gloire, là. Et vous avez la France doublement représentée dans cette mosaïque. Et vous allez voir, justement, là, c'est deux onctions, roi et sacrificateur. Vous avez une femme toute petite, alors ça, c'est très bien pour la France, humble la France, humble. Elle venait d'être humiliée, elle a bien compris la chose. Vraiment, une petite femme toute humble, petite, humblement prosternée au pied de Jésus dans l'adoration. Et ça parle de la France adoratrice qui est humble, on se le dit. Parce que notre orgueil national, notre coq gaulois, vous savez ce que je veux dire. Donc, elle est humblement prosternée au pied de Jésus dans l'adoration. Et c'est une France qui offre des sacrifices de louange et d'adoration en tant que sacrificateur de l'Éternel. Ça parle d'intimité avec Jésus, donc l'onction de Jean, hein, Jean 17, l'amour pour lui. Donc ça, c'est une facette de la France, l'adoration. C'est ce qu'on a fait hier au tabernacle, hein. On était sacrificateurs pour l'Éternel dans l'adoration. On a offert des parfums d'adoration, sacrificateurs. Et puis l'autre représentation de la France dans cette fameuse mosaïque, c'est Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc, c'est quoi? C'est la passion pour rétablir la royauté. Et rétablir, et puis la royauté de Jésus. Et pour nous, c'est la passion pour rétablir l'ordre de Dieu et la royauté de Jésus dans toutes les sphères de la société. Les sept collines, là, vous savez, les sept montagnes. Et là, c'est, vous voyez, on a cette double onction. Mais c'est aussi propre à la France, c'est propre à Josué, c'est propre à la France. Onction de sacrificateur, d'adorateur, et puis de guerrier conquérant. Ça, c'est Jeanne d'Arc. Et le cœur de Jeanne d'Arc n'est pas du tout mort. Hein. Il n'a jamais brûlé, celui-là. Il n'est pas mort du tout. Il est très, très, très vivant. Et même qu'en ce moment, ça revient bien. Hein. Alors, on va voir un peu plus... un peu plus précise maintenant. On va commencer par le... Je vais commencer quand même par le souverain sacrificateur. Alors, bon, Zacharie 3. Alors, je pensais connaître par cœur ce passage, parce que combien de fois on l'a prié, hein. Prié. Donc, Zacharie 3. Donc, dites-vous bien, on est dans un temps où Israël, les Juifs, étaient déportés à Babylone, là. Et puis, il me fit voir... Donc, Zacharie 3, hein, peut-être que tu peux le projeter. Il me fit voir... Le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, Satan debout à sa droite pour l'accuser. Verset 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Alors là, pendant des années, ce passage, je l'ai pris pour l'Église, nous, enfin l'Église de France, avec tous nos vêtements sales, l'accusateur qui n'arrête pas de nous embêter, hein, ça on connaît, individuellement, collectivement, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, l'accusateur, le culpabilisateur. Et puis, il y a une grosse évolution qui s'est faite ces derniers temps, et je voudrais vous la partager. Donc, Josué, eh ben c'était un juif, forcément, c'était un juif. Et pourquoi il avait des vêtements sales, ce juif? Ben, n'oubliez pas, c'était la déportation, Babylone. Donc, voilà, et plus de temple, plus de sacrifice, plus rien, quoi. Enfin, et puis, c'était certainement la mentalité de babylonienne qui avait dû s'infiltrer. Donc, oui, il était couvert de vêtements sales. Hein. Josué était couvert de vêtements sales. Et puis l'ennemi qui accusait, quoi. Et on est dans la même période, c'est-à-dire que là, c'était un temps où le Seigneur préparait la restauration. Il préparait, vous savez, toute l'équipe, là, après, il y aurait Néhémie, reconstruction du temple avec Esdras, reconstruction des murailles, Néhémie. Il y aurait une énorme phase de restauration, de rétablissement qui allait se faire derrière. Et actuellement, qu'est-ce que ce Seigneur fait? Il est en train de restaurer toute chose aussi. Et on a aussi des sacrificateurs juifs qui reviennent aussi des nations depuis 48, hein, ils reviennent, et puis ils reviennent aussi à leur Dieu, et puis il y a un corps messianique qui est en train de se lever en Israël, mais couvert de vêtements sales aussi, parce qu'ils ont traîné dans les nations, ou alors ils étaient dans le légalisme pharisien ultra-orthodoxe, donc des vêtements sales de propre justice, de toute façon plein de vêtements sales. Donc ces sacrificateurs juifs, le Seigneur est en train de les rétablir, de les restaurer dans leur propre terre. Et il y a quelque chose d'assez énorme. Alors, vous ne savez pas, mais en octobre dernier, juste après le 7 octobre, il y a eu un grand rassemblement, justement, des messianiques. Donc, ils étaient complètement secoués dans leur âme, dans leur chair, dans leur corps, par ce qui était passé le 7. Et puis, le 11 octobre, ils se sont réunis. C'était déjà programmé avant ça. Ils ont refait une alliance. Vous imaginez, l'alliance nouvelle en Jésus avait été faite 2000 ans auparavant à Jérusalem et elle a été renouvelée en octobre 2023 par ce corps messianique avec les chrétiens des nations aussi. Et quand j'ai le texte, je ne vais pas vous lire le texte, mais je l'ai relu, mais il y a une profondeur de sacrificature qui est énorme. Et là, juste le premier paragraphe. Nous nous tenons ici en ce jour, le 11 octobre 2023, à Jérusalem, la ville du grand roi, la ville où Dieu a placé son nom pour toujours. en tant que représentant des prémices, saint reste messianique d'Israël. Nous nous tenons devant le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu et Père de notre Seigneur Yeshua, Hamashiach, pour affirmer la fidélité de Dieu à ses promesses d'alliance envers son fils premier-né Israël. Et après, il y a toute une déclaration d'alliance. Et en fait, on voit que c'est... Il y a une profonde repentance pour tous leurs péchés, péché en tant que corps messianique, péché de division, péché d'orgueil, péché de la nation aussi. Il y a une profondeur de sacrificature, quoi. Et en fait, le Seigneur est en train de regreffer ses branches naturelles qui avaient été dispersées dans les nations. Il les regreffe sur leur propre olivier franc avec une intensité complètement renouvelée. Et je peux vous dire, toute cette déclaration, c'est une profondeur de sacrificature qui est énorme. Et là, on voit que le Seigneur, il est en train d'enlever tous ses vêtements sales. Il est en train de faire ce qu'il dit dans Zacharie 3, parce que c'est pure grâce de sa part. Hein. Et verset 4, Zacharie 3, alors l'ange dit, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez les vêtements sales. Vous voyez, il ne se les ôte pas lui-même, c'est par pure grâce. Puis il dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits de fête. Verset 5, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, c'est le turban des sacrificateurs. Ils mirent sur sa tête un turban pur, ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Et l'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué, versets 6 et 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, si tu gardes mes commandements, c'est toi qui gouverneras ma maison, tu garderas aussi mes parvis, je donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici, etc. Donc il y a par pure grâce, le Seigneur enlève tous les vêtements sales et leur donne des vêtements de fête, des vêtements de sacrificateurs, et fait d'eux des sacrificateurs selon son cœur. Et c'est ce qu'il est en train de faire en Israël. Et en fait, nous, simplement, nous, Église des Nations, le Seigneur fait la même chose. On est plein de vêtements sales, hein, l'humanisme, relativisme, tous les ismes possibles. En tant qu'Église, hein, en tant qu'Église, on est plein de vêtements sales. Et dans par pure grâce, pareil, on était aussi dans la désobéissance, comme nos frères juifs, quoi. Et le Seigneur nous lave, nous enlève tous ces vêtements sales avec beaucoup de grâce, beaucoup de patience, un par un, il nous montre. Après, on a parfois besoin les uns des autres, et parfois c'est dans des cultes qu'on le fait, hein. On enlève des vêtements sales, on se repent, on rejette la culpabilité, l'accusation, tout ça. Et il le fait avec tellement de grâce, de patience, il enlève nos vêtements sales, pour qu'on soit ses sacrificateurs selon son cœur, quoi. Et en fait, on est un avec ces sacrificateurs d'Israël, on est un avec eux, parce que Dieu lève un corps de sacrificateur sacerdotal dans toutes les nations pour le salut du monde, quoi. Donc on est unis à eux, nous on est les branches sauvages, greffées sur l'olivier franc complètement, d'une manière complètement surnaturelle, eux c'est naturel qu'ils soient regreffés à nouveau sur leur propre olivier franc, mais c'est le même geste de grâce de Dieu qui nous regreffe et qui nous met ensemble, pour être alimenté par cette huile tellement, tellement forte de l'olivier franc. Et alors le but, c'est vraiment cette église extraordinaire qu'on voit dans Zacharie 4. Et vous voyez ce chandelier tout en or. Alors imaginez, ça c'est l'homme nouveau, hein, c'est messianique, chrétien des nations, tous ensemble. Le chandelier tout en or, avec un vase à son sommet portant 7 lampes, ça c'est Zacharie 4, verset 2. Portant 7 lampes, 7 conduites pour les lampes qui sont au sommet, surplombant 2 oliviers, l'un à la droite du vase, l'autre à sa gauche, et vous connaissez la suite après, ni par puissance ni par force, par mon esprit. C'est une église qui a compris qu'elle n'a aucune force par elle-même. Et je crois que tout ce dépouillement qu'a vécu Josué, et Alain tu parlais de ce baptême de mort, hein, on est passé par la mort et la mort et encore la mort, mais pour un dépouillement complet de nos propres forces. Je ne sais pas si on est arrivé au bout d'ailleurs, de ce dépouillement de nos propres forces, pour dire que vraiment ni par puissance, ni par force, par mon esprit seul. Et Seigneur ne va pas nous lâcher jusqu'à ce que ce soit ni par puissance, ni par force. Il ne nous lâche pas, parce que c'est trop important. Et puis il nous regreffe, et puis vous voyez ce magnifique chandelier avec les 7 esprits, hein, vous connaissez les 7 esprits, chaque esprit c'est un monde, quoi, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, enfin, c'est énorme, quoi. Imaginez cette magnifique menorah qui est l'église messianique plus nation, l'homme nouveau, quoi, qui brille de ses 7 feux, imaginez, qui brille dans les ténèbres du monde, alimenté par les oliviers. Alors, on dit, pourquoi deux oliviers? Alors, vous dites, bah, il y a un seul olivier franc. Évidemment qu'il y a un seul olivier franc, hein. Les deux oliviers, simplement, on parle, c'est dit un peu plus loin. C'est que sont les deux rameaux d'olivier, verset 12, et puis l'ange dit, ce sont les deux oints, les deux fils de l'huile, et de nouveau, les commentateurs disent, les fils de l'huile, bah, c'est qui? C'est de nouveau Zorobabel, Josué, c'est-à-dire l'onction royale, l'onction sacerdotale. Vous avez de nouveau les deux onctions. Les deux oliviers de Zacharie 4, c'est les deux onctions, sacerdotale, royale. Ça va toujours ensemble, sacerdotale, royale. Et il dit, Donc, le Seigneur fait une œuvre extraordinaire, à la fois, et on comprend pourquoi, Seigneur, tu nous dépouilles de nous-mêmes. Il est très très énergique avec ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même. Hein. Il nous lâche pas, il nous prend les gros moyens. Parfois, il nous passe on est laminé parce que il veut nous purifier, nous laver. Parce que l'enjeu est énorme derrière, c'est qu'on soit ensemble avec nos frères juifs messianiques cette magnifique menorah quoi, qui doit briller, alors que les ténèbres sont tellement 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 épais dans les nations quoi. Alors ça, c'est un mandat énorme. Et sacrificateur, c'est forcément cœur de père. On voit ça dans Ésaïe 22, hein, Ésaïe 22, 22. Cœur de père, cœur de sacrificateur. C'est forcément ensemble. Un sacrificateur a un cœur de père et mère. Et un sacrificateur, il est là aussi pour bénir et pour amener la vie du ciel. Enfin, c'est tout ce qu'on a fait hier aussi. On a vraiment été très concrets. Hein. Comme disait Vito, on a amené les drapeaux des nations, on a amené nos nations devant le trône du Père pour appeler la bénédiction du Père sur les nations. Donc ça, c'est des choses qu'on a faites hier à haute dose, sacrificateur. Et chacun de nous, dans tous nos domaines, on est sacrificateur. Alors donc ça, c'est Josué sacrificateur. Après, on va revenir quand même pour l'autre Josué. Et alors l'autre Josué, il y a... Vous allez me dire, il y a un gros rapport, il y a un gros rapport. Et là, cette semaine, j'étais coincée, vraiment coincée sur, en plus c'était le temps, sur Josué 5. Alors Josué 5, déjà, dans Josué 4, vous savez, il traverse le Jourdain, et je me rappelle, en 2020, Luc avait dit, avec, ne sachant pas du tout ce qu'ils attendaient, il a dit dans Josué 3, on va passer par un chemin dans lequel on n'est jamais passé. T'as dit ça innocemment. Vous allez passer par un chemin. Bah oui, c'est ce qu'on fait depuis 2020, hein. Un chemin dans lequel on n'est jamais passé. Et puis c'est pas fini. Alors après, il y a Josué 4, et là ça m'a interpellé parce qu'il y a 12 pierres au plein milieu du Jourdain, ça y est, ils passent tous. Les sacrificateurs ont aussi un rôle énorme quand même, on remarque, hein, les sacrificateurs, ils sont devant l'arche de l'Alliance. Alors les 12 pierres au milieu du Jourdain, après les 12 pierres quand ils sortent de Jourdain à Gilgal, 12 et 12, ça fait 24. Je dis, ah Seigneur, 24, ça me parle. 2024, voilà, 5784, si on additionne tout ça, voilà, c'est intéressant, 2024. Oui, 5784, 8 et 4, 12, 5 et 7, 12, ça fait aussi 24. Donc intéressant, 24. Ah oui, on est en plein dedans, là, on est en plein dedans. Et puis après arrive Josué 5. Alors Josué 5, et là, qu'est-ce qui se passe? Alors ils sont tout contents, hein, ils ont franchi le Jourdain de manière absolument miraculeuse, et là, qu'est-ce qui se passe? Oh, couteau, circoncision. Ah, ça fait mal. Enfin, nous les femmes, on ne sait pas, mais... J'ai regardé 8 à 10 jours de cicatrisation. 8 à 10 jours de cicatrisation. Pauvre gars. C'était des vaillants guerriers, normalement. Mais là, laminé, pareil, par terre, bon. Circoncision. Et puis, il n'y a pas d'anesthésiant, là, certainement pas. Hein. Donc, circoncision, ça nous parle de nous dépouiller de la chair. Et là, pareil, le Seigneur est intraitable avec ça, énergique. Il ne va pas nous laisser tranquilles. Donc, on passe par une étape de circoncision de notre chair, alors qu'on était tout contents, on avait franchi le Jourdain, trop bien, circoncision. Et puis, quelque chose d'extraordinaire, et ça rejoint quand même dans Zacharie 3, hein, le Seigneur qui dit, enlever les vêtements sales, et là, regardez, c'est en Josué 5, verset 9, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. » C'est la même chose. Il roule loin de nous la honte, toutes nos pensées tordues, la honte de l'Égypte. C'est pareil, c'est un même dépouillement, c'est une même purification, pour une autre dimension, c'est-à-dire la conquête. Et les Israélites campèrent à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Donc, c'était lundi soir, ça. Lundi soir, c'est d'air de Pessah. Alors imaginez, dans quels états, hein. Ouais, bah, ça m'a parlé, cette circoncision au fond du lit, là, ça m'a bien parlé, la circoncision. Donc il célèbre Pessah, et puis après, et c'est pas fini. Alors ils disent, c'est bon, ça y est, on y va. Non, pas du tout. Josué 5, verset 13. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou contre nous? Ça, c'est des pensées humaines. Là, non. En français, on dirait que c'est pas du tout normal, cette réponse. Pour nous, contre nous, c'est ou pour ou contre. Et il se dit, non. Non quoi? Non. Il est au-dessus. Je suis le chef de l'armée d'Éternel, j'arrive maintenant. Et hier, au tabernacle, il y a eu ce chant, porte élevée devant l'alento, le roi de gloire arrive. Et là, on s'écrase, quoi, on s'aplatit. C'est ce qu'a fait Josué. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Il lâche toutes ses pensées pour, contre, tatitada. Non. Le chef d'armée éternelle dit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Donc c'est une révélation de la sainteté de Dieu, révélation du Adonai Tsebaot, l'éternel des armées, chef des armées célestes. C'est lui qui mène le combat, c'est pas nous avec nos petites stratégies. Non, c'est lui. Et c'est une révélation forte, quoi. Ôte tes sandales, ôte tes moyens humains, ôte tout, quoi. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et c'est dans cette position imaginée, circoncis, révélation de sainteté de Dieu, voyant la révélation de chef de l'armée d'Éternel, c'est là qu'ils ont commencé à pouvoir aller vers Jéricho. Et puis je me suis dit, alors là peut-être que ça va peut-être, je me dis quand même Jéricho, ils ont commencé par 6 jours sans combattre, quoi. Mais peut-être que les gars, ils n'étaient pas encore en état de combattre. J'ai pensé à ça. Peut-être qu'ils n'étaient pas en état. Hein. Et que, voilà, ils pouvaient juste obéir. Ok, on fait le tour, tranquille. De toute façon, on ne fait pas la guerre, là. Et puis, vous connaissez la suite. Les forteresses s'écroulent. Mais il a fallu toutes ces étapes. Et après, la conquête, quoi. Et nous, on sait que ça a été redit par Henning. On a devant nous toutes les sphères de la société, avec cette passion de poser le roi de gloire dans toutes les sphères de la société, quoi. Et donc, le Seigneur nous équipe. Mais voyez, de la sagesse de Dieu, de tout ce temps qu'il a passé depuis tant de temps, et la dernière étape, je dirais les dernières étapes hyper importantes qu'on a vécues, c'est quand même cette étape de connexion forte avec nos frères messianiques qu'on a vécu tout récemment, hein. C'est il y a quelque chose d'une grève qui est en train de se faire très profonde. Et ça, c'est indispensable, ça. C'est dans la restauration de choses. Donc, il y a un rétablissement de toutes choses extraordinaires qui est en train de se faire. Et le Seigneur est en train de lever une église pure, sans tache ni ride, qui est extraordinaire. Et donc, il nous rappelle toutes ces onctions de Josué, qu'on se les approprie, et puis qu'on marche dans ces onctions. Et qu'on soit prêt pour la nouvelle étape, mais dépouillé de nous-mêmes. Voilà, donc c'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin, c'est vraiment l'activation de ce que ça veut dire d'appartenir à l'église Josué. Qu'est-ce que ça veut dire? Et encore, il y a certainement plein d'autres choses, mais il y a quelque chose d'énorme derrière tout ça. Voilà, je ne sais pas si derrière il y a une suite à donner, une appropriation de chacun de nous, et puis de nous collectivement, de recevoir cette identité dans tout ce qu'elle a en potentiel, parce qu'il y a plein, vous imaginez bien que dans tout ça il y a plein de choses, il y a plein de germes, il y a plein de semences là-dedans, c'est plein de semences, et qu'on reçoive ça et qu'on se laisse qu'on laisse germer tout ça en nous dans l'humilité et puis là l'obéissance. Voilà. Seigneur, ce matin, ce sixième jour de Pessah 2024, 5784, nous venons humblement vers toi. Seigneur, c'est pas nous qui t'avons choisi, c'est pas nous qui avons choisi cette église, c'est toi qui nous a mis ensemble, qui nous a établis pour que nous allions, que nous portions du fruit, que notre fruit demeure. Et tes projets nous dépassent complètement, Seigneur. Et merci pour ta grâce, parce que de toutes ces années, tu, avec patience, avec amour, tendresse, tu nous as nettoyé, purifié, lavé, uni. Tu as enlevé tous ces vêtements sales et c'est pas fini. Tu nous as surtout dépouillé de nous-mêmes, dépouillé de nos pensées, dépouillé de nos forces. Tu nous as amené à cet état de profonde dépendance de toi, qui est celle qui monte du désert, appuyée sur le bien-aimé. Il y a une profonde dépendance de toi que tu as levée en nous. Et c'est toi qui es le bâtisseur de ton église, c'est toi. L'époux de ton église, c'est toi, Seigneur. Et Seigneur, merci aussi parce que nous recevons de toi cette double onction sacerdotale et royale. Et aussi en complète union, en totale greffe sur l'olivier franc avec nos frères messianiques, Seigneur, qui eux aussi ont dû passer et passent par le même processus. On est unis ensemble et tu nous mets ensemble dans une profonde unité de l'esprit pour être ensemble cette magnifique menorah à cette branche pour illuminer le monde, Seigneur, unis avec nos frères messianiques, unis au roi de Jérusalem. Unis à ton peuple, Seigneur. Alors merci, Seigneur, pour ta grâce sur l'église Josué, ta grâce sur l'église de France aussi, parce que tu la vois belle, au-delà de toutes ces impuretés, tu la vois belle, et tu ne cesses de la restaurer, de la guérir, de la consoler, de la purifier, et on veut être avec toi, Seigneur, dans ce processus, recevoir ton regard sur ton église des nations, ton église d'Israël. Merci Jésus pour ta grâce infinie, ta fidélité, et on te fait confiance parce que tu actives en nous ce nom que tu nous as donné de toute éternité. Tu actives en nous la foi par rapport à ce nom, et tu nous conduis dans ces prochaines étapes bien positionnées en toi, dépouillées de nous-mêmes et bien positionnées en toi. Merci Jésus pour ta fidélité et ta grâce infinie. Amen.